On s'attend toujours, enfin généralement, à ce que les grandes figures de l'histoire aient un parcours super limpide.
Ouais, le fameux plan de carrière infaillible.
C'est ça, surtout les figures spirituelles. On a cette image d'un leader avec, je sais pas, une carte précise et qui va de victoire en victoire sans jamais trébucher.
Le mythe du héros parfait, quoi. C'est hyper rassurant comme narration, mais la réalité des textes anciens est vraiment beaucoup plus chaotique.
Ah, mais totalement. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle exploration. On a compilé une pile de notes et d'analyses historiques sur les chapitres 12 à 14 de la Genèse.
Les fameux voyages d'Abraham.
Voilà. Et on n'est pas là pour faire un cours de géographie antique, hein. L'objectif de notre plongée aujourd'hui, c'est de voir comment ce voyage physique à travers le Proche-Orient sert en fait de miroir à un parcours psychologique.
Avec tous ses hauts et ses bas.
Exactement. On va extraire la mécanique de la foi, la gestion de l'incertitude et surtout comment la peur nous fait saboter nos propres convictions. Ok, décortiquons tout ça. Le point de départ, c'est ce saut dans le vide absolu.
Ben, le déracinement est radical, hein. Le texte demande à un homme de tout quitter sans aucune coordonnée GPS.
Rien, juste une promesse.
C'est ça. Et quand on regarde les données archéologiques, les distances sont vertigineuses. Le trajet commence à Ur, dans le sud de l'Irak actuel. Ensuite, la migration remonte vers Aran, dans le sud-est de la Turquie.
Ce qui fait déjà une trotte énorme.
Ouais, on parle de près de 1000 km. Et après ça, de Aran vers Kana, faut rajouter un bon 600 km. Pour l'âge du bronze, c'est une expédition monumentale.
Et la seule logistique, c'est, je cite, « quitte ton pays et va vers la terre que je te montrerai ». C'est comme sauter d'un avion en plein vol en espérant que quelqu'un d'autre a bien plié le parachute.
J'aime beaucoup l'image. Surtout que le texte précise qu'il a 75 ans et que sa femme, Sarah, est stérile.
Ce qui rend la promesse d'une nation innombrable complètement absurde d'un point de vue humain. Mais dans nos notes, il y a un truc qui ressort sur la structure de ce renoncement. Les trois cercles de confort.
Ah oui, le découpage est très précis. Il doit d'abord quitter son pays, donc la structure politique large, ensuite son clan, le réseau socio-économique, et enfin la maison de son père.
Le noyau dur de la sécurité, quoi.
Exactement. À l'époque, exister en dehors de ces trois cercles, c'est accepter une vulnérabilité juridique totale. Mais en échange, il y a trois promesses divines. Un territoire, une nation, et la prospérité pour devenir une bénédiction pour toutes les nations.
Et cette idée de bénédiction universelle, nos sources la connectent direct à la tour de Babel, au chapitre précédent.
Babel, c'était la division par l'arrogance. L'appel d'Abraham, c'est le mécanisme de réparation.
Donc choisir une famille pour réunifier, pas pour dominer.
Ce qui est fascinant ici, c'est que toute la réalisation repose sur une initiative unilatérale. C'est Dieu qui dit « je ferai ». L'âge d'Abraham ou la stérilité de Sarah, c'est pas le moteur. Sa seule fonction à lui, c'est d'avancer.
Et il le fait. Il arrive à Sichem, puis à Bethel. Il construit des hôtels.
Il pose des actes forts dans un environnement hostile. C'est une foi très active.
Ouais, il marque le territoire. Donc, logiquement, après un acte de foi pareil, on se dit que tout va rouler pour lui. La récompense immédiate.
Eh ben, pas du tout.
Et non.
Parce que la réalité matérielle frappe de plein fouet. Le climat en Canaan dépend de pluies super capricieuses et paf, une famine énorme s'abat sur la région.
Ce qui le force à descendre en Égypte, le grand grenier à blé du monde antique grâce au Nil.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le grand héros de la foi, le gars qui vient de marcher des milliers de kilomètres, il s'effondre psychologiquement face à la faim.
Le complexe de survie prend le dessus, il devient un réfugié climatique en fait.
Et par peur d'être assassiné, parce qu'apparemment sa femme était très belle, il demande à Sarah de mentir. Il dit qu'elle est sa sœur et il la livre carrément au harem du pharaon.
C'est choquant pour un lecteur moderne. Mais totalement, il livre sa femme pour sauver sa propre peau et s'enrichir. Il y a une vraie contradiction morale là.
Il faut remettre ça dans le contexte politique de l'époque. Tuer le mari pour intégrer la femme au harem sans violer les lois sur l'adultère, c'était une pratique courante. Sa peur était fondée.
Ok, je vois. Mais le harem du pharaon, c'était pas juste une histoire de relations intimes, si je comprends bien les notes.
Pas du tout. C'était un outil diplomatique, une façon d'assimiler des clans entiers. En prenant Sarah, Pharaon absorbe le réseau d'Abraham dans l'État égyptien.
Mais du coup, ça détruit la promesse d'une nation indépendante?
Exactement. Sur le plan théologique, c'est une catastrophe. La lignée est menacée. Et c'est là que le récit montre l'intervention divine. Pharaon est frappé de maladies graves.
Ce qui l'empêche de toucher Sarah.
Voilà. Et quand Pharaon découvre le mensonge, il est furieux. Il expulse Abraham, mais... et c'est crucial, il le laisse partir avec tout l'or et le bétail accumulé.
C'est fou parce que nos sources pointent un parallèle littéraire incroyable ici. C'est littéralement une maquette de l'Exode qui arrivera 400 ans plus tard.
La famine, la descente en Égypte, les fléaux sur le pharaon et la sortie avec des richesses. Le rédacteur a construit un écho parfait.
Mais l'inversion est tragique quand on y pense. Abraham devait être une bénédiction et à cause de son mensonge, il apporte un fléau sur l'Égypte.
La peur a complètement court-circuité la mission. Si on relie cela à la vue d'ensemble, sa lâcheté le rend riche, mais ça va créer la crise suivante.
Absolument. Il remonte en Canaan avec son neveu, Lot. Ils sont immensement riches maintenant.
Trop riches pour le territoire même.
Ouais, le syndrome des gagnants du loto. C'est ce que je me disais en lisant. Tu gagnes le gros lot et d'un coup, ta famille explose. Leur berger commence à se faire la guerre parce qu'il n'y a pas assez de pâturage.
Et le texte précise bien que les Cananéens et les Phérésiens habitaient le pays.
Donc ils sont entourés d'ennemis.
C'est des cités-états lourdement armées. Une famille nomade qui se divise de l'intérieur avec autant de richesses, c'est un suicide tactique.
Et face à ça, j'ai trouvé la réaction d'Abraham hyper gracieuse. Il n'impose pas son autorité, il laisse l'eau choisir sa terre en premier.
Ce qui révèle immédiatement le caractère de l'eau. Il regarde la plaine du Jourdain du côté de Sodome parce qu'elle est bien irriguée. Le texte dit que ça ressemblait à la terre d'Égypte.
Il cherche la sécurité visible en fait. Il veut recréer l'Égypte.
Exactement. Lot choisit l'immédiateté matérielle. C'est une forme de cupidité, d'idolâtrie égocentrique. Il se fie à ce qu'il voit.
Quitte à s'installer près de Sodome, qui est déjà décrite comme corrompue.
Alors qu'Abraham, lui, reste dans la promesse de l'invisible. Et ce motif de séparation est essentiel dans la Genèse. On sépare la lumière des ténèbres, Caïn de Seth.
Et là, on isole la lignée de la promesse des influences opportunistes. Sauf que le choix égoïste de Lot va avoir des conséquences géopolitiques désastreuses.
Le confort attire la convoitise, c'est bien connu.
Et boum, le premier thriller géopolitique du texte. Une coalition de rois de l'Est attaque la région pour mater une rébellion.
Ils pillent tout, y compris Sodome, et ils capturent Lot et ses biens.
Lot devient un simple butin de guerre. Et c'est là qu'un messager vient prévenir, je cite, Abraham l'Hébreu. C'est la première fois qu'on utilise ce mot.
L'étymologie est super intéressante. Soit ça vient de l'ancêtre Héber, soit, et c'est très probable sociologiquement, la racine Ivri désigne celui qui traverse les frontières.
Un marginal, quoi.
Ouais, un nomade hors système. Un peu comme le terme antique « abiru » qui désignait des mercenaires ou des groupes non alignés.
Et ce marginal lève une milice de 318 hommes nés dans sa maison. Comment un éleveur pacifique se transforme en général et bat une coalition impériale?
Il faut pas l'imaginer comme un simple berger avec un bâton. Il a des alliés locaux, il est un vrai chef de clan.
Un seigneur de guerre nomade.
En quelque sorte, ouais. Il utilise une tactique asymétrique, pas de bataille rangée. De la guérilla, une poursuite de nuit jusqu'à Dan.
Dan, qui est d'ailleurs une mise à jour d'un éditeur ultérieur pour que les lecteurs comprennent la géographie, c'est noté dans l'analyse. Mais bon, la tactique marche.
Il disperse l'armée, sauve Lot et récupère tout.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Parce qu'au retour, la scène est hyper étrange. Il est accueilli par deux rois très différents. D'abord, le roi de Sodome, qui lui dit en gros « garde l'argent, rends-moi juste les gens ».
Une transaction classique de l'Antiquité.
Sauf qu'Abraham refuse net. Il veut pas le moindre lacet de sandales. C'est un revirement total par rapport à sa cupidité en Égypte, non?
Absolument. Il a retenu la leçon. Il refuse de devoir son succès à un système corrompu. Il veut que personne ne puisse dire « j'ai enrichi Abraham ». Seul Dieu doit en avoir le mérite.
Il trace une ligne rouge. Mais, et c'est là que j'ai bloqué un peu, juste après, il y a ce Melchizedek qui arrive.
Le roi du Salem.
Oui, la future Jérusalem. Le gars sort de nulle part. Il offre du pain, du vin, il bénit Abraham. Et Abraham, le général victorieux qui vient de recaler Sodome, il lui donne un dixième de son butin, la dîme.
Cela soulève une question importante, en effet. Pourquoi cette soumission à un inconnu?
Voilà. Il ne fait pas partie de sa famille, c'est un roi cananéen.
La clé, c'est le titre de Melchizedek. Il est prêtre du Dieu Très-Haut, El Elyon. Pour Abraham, c'est un soulagement monumental.
Genre, il se rend compte qu'il n'est pas tout seul.
C'est ça. Depuis qu'il a quitté Ur, il baigne dans un polythéisme hostile. Il pensait être le seul adorateur de ce Dieu. Et là, au milieu du chaos, il trouve un roi qui sert le même Dieu unique.
Ah, ça valide que son Dieu n'est pas juste une petite divinité tribale attachée à sa tente.
Exactement. C'est une force souveraine qui agit au-delà de son propre clan. D'où le contraste. Le roi de Sodome offre la compromission politique, Melchisédek offre une vraie communion spirituelle.
Et le fait de donner la dîme, c'est reconnaître cet ordre spirituel. C'est fascinant de voir comment ces trois chapitres forment une boucle.
Une boucle très riche d'enseignements.
Si on fait la synthèse de tout ce qu'on a vu dans les sources, avoir une grande vocation spirituelle, ça n'immunise contre rien en fait.
Ni contre la peur viscérale, comme on l'a vu avec le mensonge en Égypte, ni contre les drames de famille et l'appât du gain, avec Lot.
Sa grandeur, c'est clairement pas sa perfection. C'est sa capacité à corriger le tir. Il a merdé en Égypte, mais il a eu la force de dire non à l'or de Sodome plus tard.
Il apprend à avancer dans le brouillard, sans exiger de carte. Tandis que Lot, lui, représente le mirage de la sécurité immédiate.
Ouais, choisir la plaine bien irriguée parce que ça ressemble à l'Égypte, le confort à court terme. Mais ça l'a placé sur une faille sismique géopolitique.
Privilégier le confort visible au détriment de l'intégrité à long terme, ça mène souvent à la catastrophe. C'est une leçon très actuelle.
Très actuelle, oui. Accepter l'inconfort de rester en marge des systèmes corrompus, c'est le prix pour garder sa vision intacte. Et d'ailleurs, pour laisser une dernière pensée à méditer, je reviens sur Melchizedek.
Le fameux roi prêtre.
Oui, cet homme n'appartient ni à la famille d'Abraham, ni à son ethnie. C'est un inconnu total. Et pourtant, c'est lui qui apporte la bénédiction et le pain et le vin.
Ce qui bouscule pas mal de certitudes, même aujourd'hui.
C'est clair. Ça pose une vraie question. Qu'est-ce qui se passe quand on réalise que la vérité, la sagesse, la lumière, ben elles ne sont pas le monopole exclusif de notre propre tribu ou de notre propre système de pensée?
Qu'elles peuvent exister chez un parfait inconnu rencontré sur la route.
Voilà. C'est peut-être la plus belle découverte qui nous attend quand on accepte, comme Abraham, de marcher vers l'inconnu. Et c'est là-dessus qu'on va clore notre analyse du jour.